Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast, on va prendre ensemble la direction de la Guinée.
Pour la République de Guinée, catégorie senior, 3-0. On part en musique.
Raphaël Constant et Camille Sarrazin étaient à Conakry il y a quelques jours. Elles sont allées à la rencontre des membres de l'association des blogueurs de Guinée, Abloguer. Une discussion improvisée entre trois blogueurs s'est transformée en un voyage dans le temps. 10 ans de web en Guinée qui ont vu naître une blogosphère et se développer les réseaux sociaux. Un des mieux placés pour en parler, c'est le fondateur d'Ablogi.
Je m'appelle Fodesan Kekuyate, ancien président de Ablogi. C'était déjà en 2010. On sortait, on venait à peine de finir les élections. Et vous savez, les années qui ont suivi en Guinée, Internet a joué un très grand rôle dans la démocratisation, notamment aussi le partage de l'information. D'abord 2006, 2007, notamment cette période-là, cette transe de période, et 2009, Internet a vraiment joué un très grand rôle dans le processus de démocratisation en Guinée. D'abord, avec la fin du régime Conté, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de manifestations, des grèves et tout ça. Et l'Internet était en quelque sorte le moyen de communication privilégié parce que les informations essentielles dont on avait besoin n'étaient pas disponibles dans les radios. Donc, c'était la diaspora guinéenne qui fournissait l'essentiel des informations crédibles sur la Guinée, qui expliquait ce qui se passait sans être censuré ou sans craindre quoi que ce soit. Donc, du coup, toute information qui venait de l'Internet, c'était imprimé. Des fois, des articles de presse étaient imprimés et puis distribués comme des tracts à cette période. Donc, c'était la principale source d'information crédible et de mobilisation pour les gens aussi. Donc, il y a eu, en 2009, avec l'arrivée des militaires et tout ça, tout ce qui s'est passé, les violences et tout ça. Je parle, en fait, du 28 septembre 2009. Du massacre du 28 septembre 2009. Moi, j'étais l'un des acteurs aussi des manifestants du massacre du 28 septembre parce que j'étais au stade et j'ai de justesse échappé à la mort. Donc, après le 28 septembre, un an d'exil, ensuite je suis revenu. Et puis, voilà, je mis en place avec les amis l'association des blogueurs de Guinée. Mais bien avant ça, c'est parce que je bloguais déjà en cette période-là. C'est-à-dire entre 2006-2007. J'ai commencé ensuite à bloguer et ensuite Mondoblog est venu. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas. Les gens n'accordaient pas assez d'importance au blogging. C'était un peu sorcier. Voilà. On estimait que bon, c'était pas vraiment. Ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Donc il a fallu beaucoup d'activités de sensibilisation. C'était pas évident que ça marche. Mais c'était un peu. Quand même, il fallait oser parce que moi, je voyais déjà des communautés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, autour de nous, en Tunisie, donc où ça bougeait vraiment. Donc je dis que c'est bien possible, même s'il n'y avait pas beaucoup de blogueurs en ce moment-là. Donc en 2015, à partir de 2015, il y avait beaucoup plus. Maintenant, les gens commençaient de leur propre initiative à créer des blogs, à les animer. Et aussi avec les médias sociaux, donc les gens étaient beaucoup plus connectés. L'Internet plus en plus démocratisé et tout ça. Donc, il y avait un engouement. Les élections de 2015 pointaient à l'horizon. Donc, en amont, on avait déjà essayé de structurer, en fait, de redynamiser le réseau. Donc, avec les nouvelles personnes, les nouveaux blogueurs qui sont venus. Donc, on essayait de les contacter et tout.
Donc, on peut dire, si je comprends bien, on peut dire que l'élan du blogging, il est né il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, en Guinée, vous parlez de 2015, donc c'est quand même un mouvement assez jeune. Et est-ce que vous diriez que l'élan, il est d'abord politique ou est-ce que c'est propre à Blogui? Parce que vous dites que les gens se sont mobilisés sur Internet à l'approche des élections.
Ce n'est pas forcément les élections qui ont amené les gens à se mobiliser sur Internet. Mais 2015, ça trouvait déjà que les gens avaient de plus en plus accès à Internet. Et ils avaient une certaine ouverture sur cette question de blogging. Voilà, donc on a mis en place un bureau. Moi, j'ai été président. On a mis en place un bureau et ensuite, on a travaillé sur le tout premier projet, le projet Guinée Vote, qui a été le projet phare pour la blogue qui nous a vraiment porté et qui a fait que les gens ont compris que bloguer, c'est pas comme ils pensent et qu'on peut vraiment agir sur les questions démocratiques.
Toi qui es le fondateur, qui a essayé vraiment de lancer le blogging, maintenant quand tu vois que c'est plutôt sur les réseaux sociaux, ou enfin qu'on parle de web activiste et plus de blogueur, t'en penses quoi?
C'est vraiment la question. Mais moi, je pense qu'il faut avoir une autre approche de ça. C'est vrai que ça... transporter tous les contenus qu'on produit sur les réseaux sociaux, c'est un peu dommage parce que il n'y a pas d'archives. Donc, finalement, on sera à un moment où d'autres ne peuvent pas accéder à ce que nous produisons. Parce que quand vous produisez sur un blog et que le blog reste, même avec les moteurs de recherche, donc on peut facilement tomber sur des articles intéressants et partager son savoir avec d'autres. Donc cet aspect de partage de savoir, je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça a un peu limité en fait. Et l'intérêt pour les gens, c'est qu'il y a plus d'interactions si c'est les réseaux sociaux. Mais on est plus dans le fait que, ouais, il y a beaucoup plus de likes, il y a beaucoup plus de commentaires sur les réseaux sociaux, et puis ça se limite là. Mais un mois après, ben, c'est fini quoi. Donc ça, c'est vraiment regrettable quand même. Mais de l'autre côté, en fait, l'intérêt aussi, c'est que ça engage plus vite, l'information est partagée beaucoup plus vite.
Ça a plus d'impact, en fait.
Plus d'impact, exactement. Donc, ça a plus d'impact dans l'immédiat que lorsque vous mettez des articles, vous les produisez sur le blog. Donc, je pense qu'il faut profiter des deux, en fait, en fonction des objectifs qu'on se fixe, et ne pas estimer que les réseaux sociaux, c'est mauvais. Pour ne pas être contre la tendance, que vous dites, bon, je m'en fous des réseaux sociaux, vous produisez vos articles, vous mettez sur un blog, alors que votre objectif est que ça soit lu. Donc, c'est pas que ça soit aussi lu 10 ans après vous, mais que ça soit lu pendant que vous êtes encore là et que vous pouvez interagir avec les gens. Donc, cet aspect-là, cet élément-là, les réseaux sociaux ajoutent cela à ce que nous faisons.
Je m'appelle Mamadou Alpha Diallo, je suis data journaliste et blogueur, je suis président de l'association des blogueurs de Guinée. Mon blog, sur mon blog, s'appelle Le Guinéen Lambda. Au début, on était une organisation un peu juste de blogueurs informels. Bon, cet aspect-là, on le conserve encore, mais de plus en plus, on est amené parfois à être sollicité sur des projets, sur des interventions.
Quel type d'intervention?
Du genre, on a parlé d'un projet avec le ministère de la Jeunesse et l'UNFPA, qu'on appelle la Génération qui ose. Donc, c'est une plateforme sur la santé sexuelle et reproductive avec laquelle on produit notamment un magazine trimestriel. Et l'objectif, c'est un peu de fournir de l'information sur la santé sexuelle et reproductive pour les jeunes et les adolescents, parce qu'ils ont fait le constat que, bon, de plus en plus, on est dans une société où le sexe est un peu un tabou. Et donc, de moins en moins de jeunes ont le courage d'aller poser des questions directement. Par contre, ils ont un rapport particulier avec leur smartphone. Et donc, l'objectif, c'est de profiter de cela pour envoyer l'information sur la santé sexuelle et reproductive dans leur téléphone directement, en fait. Donc, cela passe par des comptes sur les réseaux sociaux, par beaucoup de vidéos. Bon, ça fait partie, c'est l'un des projets sur lesquels nous travaillons constamment. Mais d'autre côté, on a aussi notre plateforme sur les promesses du président. Donc, on appelle l'ID, qui veut dire promesses en sous-sous. Et qui est la plateforme de suivi et d'évaluation des promesses du président et de son gouvernement. Et là aussi, qui nécessite un travail constant, en fait, parce qu'en gros, on a plus de 300 promesses qu'on suit et qu'on évalue, et on a des rapports sur des secteurs qu'on publie de temps en temps. Et bon, mais j'avoue quand même qu'on est un peu lent sur l'ID parce qu'on a beaucoup de difficultés d'accès à l'information publique, et ça fait qu'on a de moins en moins d'informations, et ça nous prend beaucoup de temps pour vérifier, être sûr vraiment du rapport avant de publier. Donc,
et ça, c'est vous, les blogueurs au sein de l'association Abloggy, qui avez pris la décision de surveiller les décisions du gouvernement, d'Alpha Condé.
D'Alpha Condé. Et ça, c'est juste après le projet GuinéeVote, en fait. Parce que GuinéeVote, c'était la plateforme sur les élections, en fait, de veille électorale, qu'on avait mis plateforme citoyenne. Et donc, après ça, on s'est juste posé la question, mais pourquoi, après avoir surveillé, observé l'élection, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait attendre 5 ans plus tard, à la fin du mandat du président, venir faire la même chose? Le mieux, c'est d'un peu nous assurer que tout ce qu'il a promis a été réalisé. En tout cas, de faire un peu le monitoring de toutes ces promesses-là et tout ça. J'avoue qu'on a eu beaucoup de problèmes et qu'au début, on ne savait vraiment pas à quoi ça allait ressembler. Et ça nous a pris un peu de temps, la plateforme, comment elle allait être conçue, comment toute cette méthodologie-là, on ne l'avait vraiment pas. Au début, on prenait toutes les promesses. On s'est rendu compte que si on décide de prendre toutes les promesses du président Alpha Condé, on allait plutôt être une plateforme d'enregistrement des promesses. On n'allait pas pouvoir les suivre. Donc on s'est cantonné aux promesses de 2015 qui avaient un aspect formel, donc qui était dans un document. Ça va être son projet de société, ça va être la déclaration de politique générale du Premier ministre et quelques promesses directement tenues, directement faites aux populations, mais qui sont rapportées par au moins deux médias. Parce qu'avant, on prenait tout et on avait vraiment des promesses. C'était des promesses à dormir debout, en fait. Donc, on n'avait aucune base pour... C'était des citoyens, des élus locaux qui nous disaient que le président, il a promis ça. Et on n'avait aucun moyen de vérifier. Donc, on a laissé tomber toutes ces promesses pour juste nous rester sur des promesses qui sont dans des documents, en fait.
L'association des blogueurs de Guinée, Ablogi, rassemble une cinquantaine de personnes. La plupart ont moins de 25 ans. Tous ne sont pas forcément des blogueurs, mais ils ont le web pour terrain de jeu. Et ce qui les réunit, c'est l'idée de défendre les droits et les libertés des citoyens guinéens. Mamadou Alpha Diallo.
On s'assure que les gens ils sont dans l'esprit d'Ablogi. Et ça fait que voilà, on a des candidatures parfois. Et c'est souvent après des blog camps qu'on organise et où on invite les aspirants membres, c'est après ces blocs qu'on intègre de nouveaux membres, en fait. Mais après, nous-mêmes, on a été obligés aussi d'un peu modifier le statut d'Ablogi récemment. Donc maintenant, pour être membre d'Ablogi, il ne faut pas seulement être blogueur, on peut être blogueur, web activiste ou même développeur. Donc du coup, en fait, ça devient de plus en plus une communauté autour du numérique. Le blogging, c'est l'activité phare, mais il n'y a pas que le blogging. Donc on admet des web activistes. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de blogueurs se convertissent en web activiste et donc avec une utilisation très forte des réseaux sociaux, par contre avec de moins en moins de contenu spécifique sur le blog en fait.
Alors c'est quoi cette différence entre le blogging et le web activisme?
Pour nous, le blogueur, il se caractérise principalement par le blog qu'il anime et le blog qui est au centre en fait un peu de ce qu'il fait en fait, de son action sur internet. Donc en gros, il va publier assez régulièrement des billets de blog et voilà. Alors qu'un web activiste, forcément, il peut ne même pas avoir de blog, en fait. Il peut ne pas du tout avoir de blog, donc ne pas être un blogueur. Il a une page sur Facebook, il a un compte sur Twitter, et peut-être qu'il a un compte YouTube. Et il produit du contenu, il devient une sorte d'influenceur, en fait, et donc de quelqu'un engagé qui défend des causes, mais à travers Facebook, à travers le numérique. Donc lui, il va être chez nous différent du blogueur, qui lui a son blog et donc le blog est son outil principal en fait. On se rend compte de plus en plus que le blogging, c'est même pas le blogging seulement, c'est que de plus en plus des utilisateurs ont du mal à aller sur des plateformes en fait, ils préfèrent rester sur les réseaux sociaux. Et donc quand on...
Pourquoi? Par souci d'indépendance ou c'est une histoire d'utilisation?
D'utilisation, c'est ça. Les gens ont un peu de la paresse d'aller, c'est que nous-mêmes quand on fait nos... de cliquer, d'aller sur une autre plateforme. Quand nous-mêmes, on fait nos statistiques sur l'ID par exemple, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui vont sur la plateforme. Par contre, la page, elle attire beaucoup plus. Quand on met des vidéos, il y a beaucoup plus d'interactions. Ça fait que de plus en plus, nous-mêmes, on s'oriente vers la production de contenu, de vidéos, pour attirer nos cibles qui sont sur Facebook et qui ne veulent pas beaucoup venir en fait sur des plateformes. Parfois moi il m'arrive même de lire des choses qui s'apparentent, qui pourraient être des billets de blog, mais qui sont sur Facebook et qui ne sont pas publiés sur un blog. Et donc ça fait que nous-mêmes, bah, on admet même les web activistes, même ceux qui n'ont pas de blog, mais qui ont ce type d'initiative, qui ont ce type de page, ils peuvent être membres de blog. De plus en plus, il y a des changements en fait qui interviennent. Nous-mêmes, on était un peu tiraillés. Au début, on a initié à Blogi, c'était juste comme la plupart des autres pays, des organisations de blogueurs. C'était à la limite informelle. On n'avait pas de siège, on était juste sur Internet. Et par la force des choses, au fur de nos actions, on a été un peu obligés de nous formaliser. On a eu des gens qui nous ont proposé de nous accompagner, par exemple, la fondation Osiwa qui paye notre loyer, par exemple, pour le siège, parce qu'on a eu des projets ensemble, on a collaboré. Et donc, voilà. Donc, on se formalise de plus en plus, on devient une sorte d'ONG. Et il y a des gens qui pensaient que le fait d'aller dans cette direction était un peu... Genre, c'était l'une des causes qui faisait que on avait une blogosphère qui n'était pas si dynamique que ça, en fait. Donc, ça faisait qu'on avait beaucoup plus de web activistes que de blogueurs. Et on voyait l'activité de blogueurs qui perdait un peu son attrait. On a réfléchi à toutes ces actions. Quel genre d'organisation on voudrait avoir au sein de la blogue? Et donc, là, on a clairement tablé sur une organisation qui allait être un peu formelle quand même pour faire certaines actions. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines initiatives sont lourdes et qu'il fallait être là permanemment, comme l'AID, comme la plateforme sur la santé sexuelle. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on est tombé d'accord. Par contre, on se voit peut-être 5, 6, 7 personnes qui travaillent permanemment sur les projets. On a plutôt un contact en ligne.
La parole continue de tourner au sein d'Ablogi et la discussion se poursuit autour des actions concrètes menées ces dernières années. Le changement de perception d'Internet et des réseaux sociaux qui est en cours dans le pays. La situation est compliquée en Guinée pour les journalistes, mais aussi pour les blogueurs qui sont eux aussi des producteurs d'informations.
Je m'appelle Abdoulaye Oumousso, je suis journaliste blogueur, secrétaire général de Ablogi. On a eu à mener préalablement des campagnes pour dénoncer des choses. Et il y a eu des solutions, notamment c'est la première campagne d'ailleurs qu'on avait eue qui a eu assez de succès, qui était la campagne droit à l'identité. Parce qu'il fut un moment, les Guinéens n'avaient pas de carte d'identité, il y avait une rupture de stock et on ne délivrait pas les cartes d'identité. Et les Guinéens de l'étranger étaient obligés de revenir au pays pour se faire un passeport. Imaginez un passeport qui ne vaut même pas 100 euros et que tu es obligé de revenir au pays pour faire ce passeport, c'était aussi coûteux pour ces Guinéens de l'extérieur. Donc on a mené cette campagne qu'on appelait droit à l'identité et heureusement pour nous, il y a eu assez de pression sur les dirigeants et finalement ils ont repris la délivrance des cartes d'identité. Parce qu'avant ils disaient qu'ils ne pouvaient pas reprendre la délivrance des cartes d'identité parce qu'il y avait une harmonisation des cartes d'identité au niveau de la sous-région. Donc ils attendaient qu'il y ait cette harmonisation. Et on les avait proposé à l'époque que vu qu'il n'y a pas de carte d'identité et que les gens sont continuellement anarqués au niveau des barrages à l'intérieur du pays et dans les noctambules à Conakry également n'arrivaient pas à circuler librement, donc il va falloir qu'il y ait un plan B. On les avait proposé à l'époque de laisser les gens utiliser au moins les cartes d'électeur. Ils ont trouvé que ce n'était pas la bonne solution, ils ont repris la délivrance des cartes d'identité. Donc c'était l'une des campagnes numériques qu'on a menées et c'est vraiment un acte qui a été salué et qui a aussi amené de la lumière sur Ablogi.
Donc vous avez l'impression que la plupart de vos campagnes ont un impact dans le pays ?
Oui, on estime que nos campagnes ont eu des impacts et parce que les résultats, on a eu des résultats, donc c'est parce qu'il y a eu l'impact qu'il y a eu des résultats. Et on pense que Internet aujourd'hui est un autre moyen de liberté d'expression et de manifestation, mais qui au moins met à l'abri la vie des jeunes et puis des citoyens.
Et ça, le gouvernement l'a bien compris qu'aujourd'hui, l'impact d'Internet peut affaiblir justement les décisions.
Oui, justement, le gouvernement l'a compris. Et on pense d'ailleurs que c'est l'une des choses qui aurait peut-être encouragé le gouvernement d'avoir cette loi liberticide que Ablogi avait d'ailleurs dénoncée à l'époque également, avant même le vote de cette loi à l'Assemblée nationale.
De quelle loi ?
La loi sur la cybersécurité et la protection des données personnelles.
Et c'est quoi cette loi ?
C'est la loi qui autorise la censure en ligne. Et on a eu affaire à approcher des députés, notamment des ministres et autres. On a dénoncé la loi à l'époque, mais malheureusement, on n'a pas été accompagné par les associations de presse. Et aujourd'hui, c'est l'actualité vraiment, parce que c'est à travers cette loi qu'on arrive à inquiéter les journalistes en République de Guinée.
Et les blogueurs peuvent être inquiétés à cause de cette loi ?
Oui, les blogueurs peuvent être inquiétés à travers cette loi. C'est la difficulté qu'on avait parce que quand on allait vers les gens pour leur dire la nécessité qu'il y a de lutter pour ne pas que cette loi passe à l'État, à l'Assemblée nationale, les gens pensaient que c'était une loi qui était dirigée que contre les blogueurs, oubliant que les journalistes aujourd'hui utilisent les mêmes moyens que les blogueurs.
Et les blogueurs sont des citoyens.
Et les blogueurs, c'est des citoyens. Au-delà d'être des citoyens, c'est du journalisme citoyen que les blogueurs font. Donc, ils marchent sur la même plate-bande que les journalistes. Les journalistes avaient même d'ailleurs oublié que la loi L002 de la liberté de la presse concernait également les blogueurs. Parce que dans cette loi, les blogueurs sont pris en compte, les blogs sont pris en compte.
La loi L002 qui dépénalise les délits de presse.
Cette loi prend en compte également les blogueurs. Donc c'est ce que les associations de presse peut-être n'ont pas compris. Ils ont cru que la loi sur la cybersécurité concernait que peut-être les blogueurs et les utilisateurs d'Internet, oubliant que eux aujourd'hui, les médias modernes, utilisent tous des moyens numériques.
Il faut savoir qu'il y a eu un changement de perception vis-à-vis de l'Internet. Il y a quelques années, quand on trouvait une information sur Internet et vous mettez ça en avant pour attaquer une autorité publique, qu'est-ce qu'on disait ? On dit « Oh non, ça vient d'Internet. Ça n'a pas de sens. » On ne commentait pas en fait. Donc du coup, comme si une information est publiée sur Internet, c'était automatiquement, ça veut dire que ce n'est pas crédible. Donc on disait « Non, ce n'est pas crédible. Oh, c'est sur Facebook, ou bien c'est publié sur un blog, ou bien c'est publié sur Internet. » Donc ce n'était pas crédible pour les gens. Donc ils ne s'attardaient pas à commenter dessus. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on est beaucoup plus en plus conscient que notre image sur Internet est importante. Ce qu'on dit sur Internet, c'est important en tant qu'autorité publique. Donc du coup, ça a changé de perception. Avant, les gens ne s'intéressaient même pas. C'était rare de voir une autorité publique sur un réseau social. Facebook, Twitter, ce n'était pas leur problème. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en premier, qui sont sur Twitter, qui sont sur Facebook. Vous avez plein de ministres aujourd'hui qui sont sur Twitter, qui sont sur Facebook. D'autres qui ont engagé des community managers. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que la perception a complètement changé. Donc, ils ont vu que non, la bataille plutôt, ça doit se jouer sur mon image sur Internet et non de dire que non, je ne touche pas du tout, je ne mets rien sur Internet. Donc, maintenant, eux-mêmes, ils fournissent. Donc, cette loi, ce n'est pas tout qui est mauvais dans la loi en question. La loi qui protège les données à caractère personnel et la cybersécurité qui consacre cette... C'est pas toute la partie de la loi qui est mauvaise. Et nous-mêmes, au niveau de Ablogi, au moment où on menait en fait ce plaidoyer, on n'était pas contre la loi tout entière. Parce qu'il y avait un vide juridique. C'est-à-dire les données personnelles n'étaient pas protégées. Et il y avait beaucoup d'arnaques. C'est-à-dire on arrêtait des gens qui ont arnaqué sur la base des mails et tout ça. On va en justice, même s'il y a tous les éléments, mais il n'y a pas de loi pour les condamner. Donc il y avait un vide juridique à la matière. Donc la loi a réglé en quelque sorte ces aspects-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que en ce qui concerne la liberté d'expression, l'inquiétude est que c'est qu'on a il y a des articles qui ont été focalisés, qui peuvent être manipulés de manière à contrôler ou à punir ceux-là même qui n'étaient pas sur lesquels il y avait un vide juridique, c'est-à-dire les simples citoyens. C'est-à-dire si vous êtes journaliste, il y a une loi, quand le contenu ne plaît pas, on sait ce qu'il faut faire. Donc les sites web rentrent dans ce cadre-là, donc on les applique la loi. Mais les citoyens qui sont aujourd'hui aussi devenus des médias, qui ont des comptes Facebook, qui ont des Twitter, il y a quelle loi qui s'applique à eux, étant donné qu'ils ne sont pas officiellement connus comme étant des journalistes, des professionnels de l'information? Donc cette loi peut être manipulée effectivement dans ce sens-là, de sorte qu'on l'applique à tout le monde. Donc on applique et non seulement aux citoyens, mais aussi à ceux-là qui ont un statut particulier comme des journalistes. Donc le contenu de la loi, et si vous prenez aussi le contexte de la Guinée, c'est que il y a un problème. C'est que les réseaux sociaux aujourd'hui ont non seulement des côtés un côté avantageux pour nous, mais en des périodes critiques aussi, il faut dire que ça, c'est vraiment un danger. Ça devient un danger dans la mesure où n'importe qui peut diffuser de l'information sans être contrôlé. Bien sûr, je ne suis pas pour la censure, je ne suis pas pour qu'on contrôle les gens, ce qu'ils publient, mais plutôt que la personne qui ait une certaine autodiscipline. Et en des périodes comme ça, et vous savez aussi que les politiques instrumentalisent ça. Parce qu'il n'y a pas de parti politique aujourd'hui qui n'est pas structuré et qui a un groupe de gens qu'ils appellent des communicants, qui ont pour mission de diffuser des informations, soit de fausses informations, ou bien qui ont pour mission de de donner des informations, de noyer des informations qui peuvent nuire à la réputation de leur parti ou de leur leader. Il y a des groupes de personnes aujourd'hui qui sont là, qui sont entretenus par des partis politiques, qui sont connus pour ça. Donc, en des périodes critiques, le débat n'est pas objectif. Le débat orienté par les politiques pour dire, il faut aujourd'hui, voici ce que lui, il a dit, voici comment il faut l'attaquer. On leur donne des informations qui peuvent être, qui peuvent nuire en fait à l'ordre public. Donc, il y a derrière des politiques qui ont de mauvaises intentions. Donc, il y a aussi des citoyens qui, avec la tension ethnique et tout ça, qui utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des messages comme ça. Donc, d'une certaine manière, et nous, on n'était pas contre le vide juridique, mais on était plus contre cette loi que ça soit utilisé la façon dont on est en train de l'utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire les mêmes politiques qui peuvent passer par les gens pour faire passer des messages, leurs messages, et d'une manière, donc quand ça les arrange, mais quand ça les arrange pas, et puis voilà, on vous prend, on vous applique la loi, et voilà. Donc aujourd'hui, il y a ce problème-là auquel on est confronté, vu qu'il y a dépénalisation du délit de presse. Mais de l'autre côté, il y a cette loi qui peut être appliquée à tout le monde. Donc même les journalistes, quand ils pensent que ce que tu as publié, ça ne les plaît pas du tout. Donc on essaie de t'appliquer pas la loi sur la liberté d'expression et sur la liberté de la presse, mais plutôt la loi qui porte sur la cybersécurité. Donc cette manipulation-là, c'est ce que nous on craignait en fait et qu'on évitait que ça soit utilisé de manière à restreindre la liberté d'expression des citoyens.
10 ans de Web Guinéen, c'était un reportage de Raphaël Constant accompagné de Camille Sarrazin. On retournera en Guinée-Conakry dans quelques semaines pour un reportage consacré spécifiquement à l'état des médias dans le pays.
Ok, là on se replace, c'est bien.
Avant de se quitter, on va parler de Maracana, un sport né en Côte d'Ivoire qui est un dérivé du football. L'occasion de vous faire entendre un Mondoblog audio un peu particulier, puisque des blogueurs de Mondoblog se sont mobilisés à l'image de Raissa Yao. Notre Mondoblogueuse ivoirienne était sur place. Écoutez-la interviewer les deux seules femmes arbitres de cette compétition. Elle raconte ce que cela fait d'être une femme dans ce milieu très masculin.
Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement, s'il vous plaît?
Mademoiselle Sabra Nguessan Elisabeth, arbitre de Maracana International. Bon, moi j'ai commencé au foot, j'ai commencé le football féminin, j'ai transité par le handball avant de venir au Maracana.
Mademoiselle Kwaku Désiré, arbitre international du Maracana.
Moi j'ai seulement joué au handball, après j'ai fait l'arbitrage du handball et aujourd'hui je suis au Maracana.
Alors, comment est-ce que vous retrouvez arbitre? Est-ce qu'on peut connaître un peu votre histoire?
Bon, il faut dire que le sport, c'est depuis le bas âge. Hein. C'est une passion pour moi. C'est une passion et surtout l'arbitrage. Voir tout ce qui se pratique sur les espaces réduits, ça me fascine. Raison pour laquelle j'ai basculé au Maracana.
Moi, hier, je vous ai vu vous entraîner, tous les arbitres en train de s'entraîner avant le début des matchs. Et puis, au moins, sur 10 arbitres, j'ai vu que vous étiez que les seules femmes. Donc, deux femmes. Comment vous vous sentez dans ce milieu d'hommes-là?
Au milieu des garçons, on se sent en sécurité. Nous sommes comme les hommes. Voilà.
Oui, je pense qu'elle a tout dit. Hein. Avec les hommes, c'est une question d'habitude, au fait. C'est une question d'habitude. Puisqu'on fait le travail des hommes, on fait comme les hommes. Ce qu'ils font, on peut le faire. On le fait même bien. Donc, quand on est en maillot, on se sent plus comme une femme. Voilà, on fait, on joue ce qu'on peut jouer. Voilà, on fait respecter les lois du Maracana.
C'était une interview menée par la mondoblogueuse ivoirienne Raissa Yao du blog Regard Indiscret. C'est la fin de cette émission. Ce reportage en Guinée était signé Raphaël Constant. Simon De Creuse était à la réalisation. N'hésitez pas à partager cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, écouter en version longue sur notre podcast. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio, pour un nouvel épisode de l'Atelier des médias.